parole du jour avec le Père Willem.
Le catholicisme inspiré par l'esprit de Pentecôte. Oui, ce catholicisme comprend, exprime ces quatre caractéristiques fondamentales de la vie ecclésiale. L'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, telles qu'elles ont pris forme par la réforme en profondeur de l'Église initiée par ce grand pape Léon XIII. Il ne faut pas l'oublier, l'Église a commencé sa réforme en profondeur avec ce pape qui a pris conscience en 19e siècle de l'urgence d'une réforme radicale de l'Église et que d'obstacles a-t-il rencontré. Ce catholicisme évangélique remplace le catholicisme de la contre-réforme pour que l'Église puisse accomplir sa mission dans les contextes du troisième millénaire débutant. Il présente 10 caractéristiques plus spécifiques qui, prises ensemble, donnent le profil de l'Église catholique de l'avenir et suggèrent des critères pour une réforme en profondeur. Alors, ne créons pas de résistance à ces réformes comme on l'a fait après Vatican II. Soyons ouverts à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Pentecôte. Dans ce catholicisme catéchétique, dévotionnel de la contre-réforme, les fidèles ont appris des choses sur Jésus grâce à des formulations catéchétiques succinctes résumant correctement la doctrine catholique au sujet du Fils de Dieu devenu Fils de Marie. Dans le catholicisme animé par l'Évangile, il ne s'agit pas d'abord de savoir des choses sur Jésus, mais, je souligne, de le connaître lui-même. Ces formules catéchétiques de la contre-réforme, facilement mémorisables, expriment bien les vérités de l'Évangile. En effet, elles sont des réponses simplifiées, mais doctrinalement justes. Et à la question « Pour vous, qui suis-je ?», la question de Jésus dans Marc 8, 29. Ah, oui. Cependant, pour le catholicisme évangélique, ces formules doctrinales, brèves, sont des expressions de ce qui est plus fondamentalement une rencontre, un contact personnel avec et une connaissance de Jésus que le fidèle rencontre dans la foi et avec qui il est entré en amitié. Cela est primordial, il faut le souligner, entrer en amitié avec Jésus aujourd'hui. Alors, cela commence avec la rencontre et la connaissance du Seigneur lui-même, qui est le sacrement de la rencontre de Dieu. Et cette amitié avec le Christ, telle que l'Évangile le comprend, nous enseigne deux choses nécessaires au salut et à une vie pleinement humaine de ce côté de la mort. Tout d'abord, dans l'amitié avec le Christ, nous apprenons à reconnaître le visage du Père miséricordieux, puisque quiconque voit le Fils voit le Père. Celui qui expérimente le pouvoir du Fils de pardonner les péchés et de restaurer la dignité humaine voit le Père qui accueille le Fils perdu et les habille du vêtement de l'intégrité. Ensuite, l'amitié avec le Christ nous ouvre à la vie trinitaire et nous découvrons ainsi la pleine vérité sur notre humanité. L'amitié avec le Christ configure nos vies à sa vie à lui, une vie d'amour oblatif. Elle nous permet de vivre notre vie comme un don aux autres. L'amitié avec le Christ nous permet d'entreapercevoir déjà un rayon de la lumière et de la vie de la Trinité, d'une communion d'amour, une communion de dons et d'accueil absolu. Aujourd'hui, nous est donc proposé l'amitié avec le Christ non comme une option sympathique dans le supermarché des spiritualités, mais comme le moyen gracieux et unique du salut de chacun. Tous ceux qui sont sauvés le sont de la même façon par le Christ. La vérité de sa vie et de sa mission de sauveur universel est révélée définitivement par sa passion, sa mort et sa résurrection. Et nous affirmons, non comme un mythe pieux, mais comme une vérité, que Jésus est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie par la puissance de l'Esprit. Ce Jésus qui est né à un moment de l'histoire, il est le véritable Fils de Dieu et non le Fils d'un quelconque géniteur humain. Ce Jésus savait qu'il incarnait d'une façon unique l'espérance du salut du monde, annoncé tout d'abord au peuple juif. Il a embrassé sa mort comme le moyen providentiel d'opérer le salut de tous. Sa résurrection d'entre les morts a confirmé et couronné son acte d'obéissance à la volonté du Père. Il a été vu ressuscité par ceux qui l'avaient accompagné auparavant dans son ministère public d'enseignement et de guérison. Voilà ce que nous attestons et proclamons, que tout cela est vrai. Le Christ que nous proclamons n'est donc pas un modèle de vertu tout simplement, ni un enseignant de nobles vérités sur la vie juste à la fin tragique à cause de la méchanceté des hommes. Il est le Fils du Dieu Très-Haut qui a pris chair dans l'histoire. Comme l'excellent philosophe Lewis l'a suggéré, il n'y a que deux autres possibilités. Soit Jésus de Nazareth était un fou, soit il était le plus grand menteur de l'histoire. Il n'y a pas d'autres options. Oui, le catholicisme animé par l'Esprit commence avec la confession que Jésus est vraiment le Seigneur, comme la grande tradition chrétienne l'a toujours dit. Cette confession fondamentale de la foi est le critère de tout effort théologique pour dire comment tout cela est possible et que cela pourrait signifier. Nous sommes tout à fait conscients qu'en proclamant la Seigneurie de Jésus et la possibilité d'une amitié transfiguratrice avec lui, nous faisons une proposition profondément contre-culturelle. Nous savons que cela a toujours été le cas. La proclamation d'un sauveur crucifié et ressuscité a été dès le début un scandale pour les uns, une folie pour les autres, comme le disait Paul aux premiers chrétiens de Corinthe. Voyez la première aux Corinthiens, chapitre 1er. C'est encore le cas aujourd'hui et ce sera toujours le cas. Cependant, nous confessons aussi que pour ceux qui acceptent son invitation à l'amitié, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Par cette puissance et dans cette sagesse, les questions les plus profondes et les plus profonds désirs du cœur humain trouvent leur réponse. Ainsi, en proposant tous la possibilité d'une amitié avec le Seigneur Jésus, nous offrons au monde postmoderne ce dont il a grandement besoin, la rencontre de la divine miséricorde. De même que le Dieu de l'Ancien Testament s'est présenté dans le monde ancien comme celui qui libère l'humanité des caprices et des fantaisies des dieux olympiens ou des terreurs du redoutable Moloch, pareillement, la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de l'amitié à laquelle il invite libère le monde postmoderne de son fardeau de culpabilité né d'une prise de conscience des horreurs que l'humanité a rappelées sur elle au cours du XXe siècle et qui pourrait expier. Oui, qui pourrait expier ce fardeau de culpabilité? À qui pourrait-on confesser cette méchanceté et qui pourrait l'absoudre? Dans l'invitation à entrer en amitié avec le Christ, nous proposons à l'humanité postmoderne un chemin plus humain, libéré de la culpabilité du passé récent. cette amitié avec Jésus est trouvée dans l'Église, dans la parole de Dieu, que celle-ci reconnaît dans la Bible, dans les sacrements qu'elle célèbre, dans les œuvres de charité et de service du prochain, et dans la compagnie de ceux et celles qui sont nés de l'eau et de l'esprit.